pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, si l'on prend un peu de recul, le tableau est inquiétant. Disparition massive de la biodiversité, changement climatique, raréfaction des ressources naturelles, pollution de l'océan, toutes ces réalités dont les conséquences commencent à se faire sentir de par le monde, nous annoncent un 21e siècle complexe. Mais il y a une bonne nouvelle, nous avons en nous la capacité de nous adapter, d'innover pour transformer radicalement nos sociétés. C'est en tout cas la conviction de notre invité. Donc, bienvenue dans une leçon d'optimisme.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Joël Dornet.
Bonjour.
Vous avez été chercheur et enseignant dans les domaines de la biologie et de l'informatique au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous avez écrit de nombreux best-sellers sur les liens entre la vie et l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, vous êtes président de Biotix, qui est une entreprise de conseil stratégique qui s'appuie justement sur le mariage entre la biologie et l'informatique. Et votre dernier livre, La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, fait la synthèse finalement entre vos trois passions, j'ai envie de dire, la biologie, l'informatique et la prospective. Il n'en manque qu'une finalement, c'est le surf que vous avez introduit en France.
Le surf est toujours présent, effectivement, parce que je pense à la société fluide. Je pense que notre vie est un déséquilibre contrôlé. Il faut constamment s'adapter, se réadapter. Donc le surf est présent dans mon esprit.
Oui, c'est vrai que dans un monde comme le nôtre, hein, en plein bouleversement, la capacité d'adaptation qui est celle du surfeur face à la vague, elle est nécessaire.
Absolument, parce que le surfeur, il a besoin d'une information multidimensionnelle. Il a besoin de savoir où sont les autres surfeurs, quelle est la taille de la vague, est-ce qu'il y a des rochers dessous, d'où vient le vent, d'où viennent les autres vagues. Et donc c'est comme le manager d'une entreprise, il a besoin d'une information multidimensionnelle pour pouvoir garder le cap et faire en sorte que le lien humain, le lien social, la conviction des gens passent vers les motivations de l'entreprise.
Et puis vous dites que nous avons donc la capacité de nous adapter tout d'abord à nous-mêmes, quelque part, grâce à l'épigénétique. Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors épi veut dire par-dessus. La génétique, c'est en quelque sorte le programme du vivant, l'ADN dont on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Et jusqu'à présent, on pensait que ce programme génétique contrôlait absolument tout le vivant, qu'on ne pouvait rien y faire.
C'était figé en quelque sorte.
C'était écrit. C'était le destin, écrit. Or, avec l'épigénétique, qui est une des plus grandes révolutions de ces 20 dernières années, épi veut dire par-dessus. C'est-à-dire qu'en plus de ce programme, on peut moduler l'expression des gènes. On ne peut pas changer le code génétique, mais on peut moduler l'expression des gènes par notre propre comportement. Un comportement qui est fondé sur la nutrition, le sport, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait. Tout ceci fabrique dans notre corps des molécules qui vont dans le noyau, sur l'ADN, ouvrir ou fermer les tiroirs des gènes comme une clé ouvre et ferme des tiroirs.
Alors, vous partez du vivant, hein, ce qu'on appelle un peu le biomimétisme aussi. Vous dites que les abeilles et les fourmis font cela.
Alors, les abeilles, les fourmis et les jumeaux, c'est-à-dire que les abeilles, elles naissent avec tout le même patrimoine génétique. Une larve d'abeille a le même patrimoine génétique que la larve d'à côté. Sauf que si on nourrit une abeille avec de la gelée royale, à ce moment-là, il y a des produits chimiques qui rentrent dans l'intérieur de son corps, qui vont dans son noyau et révèlent certains gènes de l'ADN qui étaient endormis. Vous avez vu la différence entre une reine et une larve. Des jumeaux, ils naissent avec le même patrimoine génétique, mais si l'un d'entre eux va aller vivre aux États-Unis, va aller vivre dans leur campagne, manger différemment, et ben ils ont le même patrimoine génétique, mais ils vont être différents.
Donc nous aussi, on peut évoluer, faire évoluer donc l'expression de nos gènes, jouer avec ça, et c'est une excellente nouvelle.
Mais tous les jours. Tous les jours de notre vie, il y a 5 choses que nous pouvons faire, tous les jours. C'est la nutrition équilibrée, c'est le sport ou l'exercice modéré, c'est le management de ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire la tension permanente dans notre vie, personnelle, professionnelle. C'est le plaisir de faire ce qu'on fait, quand on a du bonheur et du plaisir. Et enfin, c'est l'harmonie du réseau social, familial et professionnel qui fait en sorte que ces 5 éléments nous permettent de fabriquer dans notre corps des produits qui vont ouvrir et fermer les tiroirs des gènes, les bons, fermer les mauvais et ouvrir les bons.
Mais alors ce que vous décrivez là, c'est la vie dont nous rêvons tous.
Mais on la rêve et on peut la faire. C'est la grande différence, c'est que la science nous montre que c'est pas seulement un rêve, c'est vraiment une réalité.
Mais alors du coup, est-ce que c'est la fameuse histoire de l'inné, le patrimoine que nous avons à la naissance, et l'acquis, ce qu'on acquiert au fur et à mesure de sa vie, c'est cela ?
Complètement, c'est la fameuse histoire qu'on avait séparé l'inné et l'acquis, on avait séparé Darwin, tout est fait par hasard et c'est la sélection naturelle qui va garder les espèces les mieux adaptées, ou Lamarck qui disait la fonction crée l'organe, on les avait séparés complètement l'un et l'autre, mais l'épigénétique les rassemble, les rapproche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une forme d'hérédité des caractères acquis, des parents qui sont fumeurs, qui sont alcooliques, qui sont drogués, qui sont stressés, peuvent transmettre à leurs enfants et aux autres enfants des enfants une certaine forme de cette addiction.
Et des choses positives aussi.
Et des choses positives, évidemment, bien entendu.
Alors vous expliquez par exemple que notre alimentation joue un rôle essentiel. C'est étudié par une science relativement récente qui s'appelle la nutrigénomique.
Oui, il y a deux mots, nutri, nutrition, génomique, gène. Et donc on a démontré, maintenant c'est une preuve scientifique de très nombreuses publications sur ce sujet, que ce que l'on mange influence nos gènes. Il faut considérer que les gènes sont comme des tiroirs, empilés les uns sur les autres avec des clés. Et si dans ces tiroirs, il y a des recettes, comme des recettes de cuisine, pour fabriquer un soufflé au fromage ou un poulet aux champignons. Donc ces recettes, on peut prendre la clé, ouvrir le tiroir, prendre le soufflé et le fabriquer. Mais si on n'a pas la clé, on ne peut pas faire ce soufflé, il est fermé. Les gènes, c'est comme ça. Les gènes sont ouverts ou fermés, et c'est ce que l'on mange, c'est ce que l'on consomme, c'est le sport qu'on fait ou pas qui va ouvrir ou fermer ces tiroirs.
Et c'est notamment grâce au rôle de notre microbiome. Alors parlez-nous un petit peu de ce microbiome, parce que ça c'est fascinant.
J'adore le microbiome. Le microbiome, c'est les 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre corps, sur nous et à l'intérieur de nous, dans le côlon. Pour vous donner une idée, le nombre de cellules de notre corps, cellules de foie, cellules de rein, cellules de cœur, neurones, c'est 6 000 milliards. C'est déjà beaucoup. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète, c'est 1000 fois plus. C'est 6 000 milliards de cellules. Or là, il s'agit de 100 000 milliards de microbes. Et ces microbes sont utiles. Ils fabriquent des suppléments alimentaires pour nous, ils fabriquent des vitamines, ils nous permettent de lutter contre les autres microbes. Et je dis toujours, pour être en bonne santé, il faut garder notre microbiome heureux. Quand il est heureux, en bonne santé, si on ne mange pas trop d'antibiotiques, de trop de graisse, trop de sel, trop de sucre, il est en bonne santé et nous maintient en bonne santé.
Et ce microbiome, il pèse 5 kilos en moyenne.
Plus que le cerveau.
C'est incroyable.
Incroyable.
Alors, il y a aussi des influences extérieures, hein, ce que vous appelez l'écotoxicité, tous ces polluants que nous avons fabriqués et qui nous polluent au quotidien. Nous avons reçu Robert Barouki, médecin biochimiste et toxicologue à l'INSERM, qui les étudie de près.
Nous, dans nos laboratoires, déjà, on étudie l'effet d'un toxique, d'une molécule, par exemple, sur un organisme, des cellules, et on voit ce que ça donne. Ça, c'est quelque chose qu'on peut assez bien faire, et au total, on a une bonne idée de la toxicité de quelques centaines de composés. Mais la réalité de l'exposition, ce sont des mélanges, et des mélanges très compliqués. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça nécessite vraiment beaucoup de recherches avant d'arriver à savoir comment gérer ces questions-là.
Je parlais des perturbateurs endocriniens, ça fait beaucoup de débats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et où on les trouve ?
Les perturbateurs endocriniens ont modifié quelque part la manière dont on travaille la toxicologie. Avant, si vous voulez, on pensait la toxicologie un produit toxique qui vient tuer des cellules ou modifier l'ADN, faire des mutations dans l'ADN, etc. C'est un effet direct. Les perturbateurs endocriniens agissent de manière beaucoup plus subtile. Ils vont modifier cet équilibre physiologique de l'organisme, contrôlé souvent par des hormones. Hein, donc on a tous entendu parler de l'insuline, des œstrogènes, qui sont les hormones sexuelles de la femme, des androgènes pour l'homme. Ces hormones ont un rôle très important pour notre physiologie, pour notre développement et toute une série de fonctions. Et les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui viennent perturber leurs effets, soit les mimer partiellement, soit s'y opposer partiellement. Donc ils n'ont pas un effet visible de manière forte immédiatement, mais sur le long terme, ils vont modifier notre équilibre physiologique et entraîner des effets à plus long terme. Par exemple, apparition de certains cancers, des problèmes métaboliques de type diabète, obésité, certains problèmes de développement neurologique, etc.
Oui, Joël de René, la courbe croissante des cancers et des conséquences, enfin toutes ces maladies qui sont les conséquences des pollutions que nous avons fabriquées, ça c'est quand même une limite à notre évolution.
Absolument, mais ce qui est très juste dans ce qui vient d'être dit, c'est l'interdépendance d'un certain nombre d'éléments qui agissent les uns par les autres et se renforcent, il y a des synergies. Et il y a un mot que je voudrais ajouter qui est très important, c'est l'épitoxicité. On a un génome, on a un épigénome. il n'est pas inscrit dans les gènes que fabriquent les enzymes et les protéines, il est inscrit dans les mécanismes de régulation de l'expression des gènes. Et donc cet épigénome peut être atteint par l'interdépendance de certains produits présents dans notre environnement ou même dans notre alimentation, et ça crée l'épitoxicité. Je vous donne un exemple, c'est la dépakine. La dépakine est un produit anticonvulsifant que beaucoup de femmes ont pris pendant qu'elles étaient enceintes, qui a conduit à des enfants mal formés. La dépakine, c'est du valproate de sodium. Or, on sait maintenant, on ne le savait pas il y a encore 3 ans, on sait maintenant que la dépakine est un perturbateur non seulement du système nerveux des enfants, mais surtout des gènes, de l'expression des gènes. Il conduit à faire en sorte que certaines histones, qui sont les fourreaux qui entourent l'ADN, vont être perturbées par ces substances et faire en sorte que le gène ne s'exprimera pas de manière normale. Donc c'est l'épitoxicité dont le terme, il faut le retenir, il est très important.
Oui, et puis il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail, hein, c'est-à-dire toutes ces matières polluantes qui se réunissent les unes les autres et qui du coup créent presque de nouveaux polluants, et là on est face à une grande incertitude.
Alors c'est pour ça que l'intelligence artificielle dont on parle tellement, moi je parle plus d'intelligence auxiliaire, parce qu'elle va aider notre propre intelligence à se dépasser. L'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire ces quantités de données statistiques mondiales sur les dangers des produits et leurs interdépendances, va nous aider à démêler le vrai du faux et savoir vraiment qui est-ce qui agit et où ça agit.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi, mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et vous écoutez donc C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous sommes en bonne compagnie aujourd'hui avec le scientifique prospectiviste Joël de Ronay, qui démontre dans son dernier livre que grâce à l'épigénétique, nous sommes capables de nous adapter. L'évolution de l'espèce humaine en est d'ailleurs la preuve, Joël de Ronay. On s'adapte depuis qu'on existe finalement.
Alors il y a des adaptations positives, il y a des adaptations négatives. Darwin l'a très bien montré avec les processus de sélection naturelle. Donc ce que l'on peut faire pour soi de bénéfique avec l'épigénétique, malheureusement, il y a des choses qui sont involontairement faites par l'environnement. S'il y a trop de pollution, trop de bruit, trop de soleil, ça va aussi agir sur nos gènes.
Il faut qu'on apprenne à se fixer des limites, comme on entendait à l'instant.
Qu'est-ce que vous la pensez nutrition, c'est un bon exemple. Face à la pléthore alimentaire, la diététique, c'est savoir se fixer des limites pour être en bonne santé, en mangeant bien et en se faisant plaisir. Bonne santé, bien manger, se faire plaisir. Donc la gastronomie, c'est pas la privation. La prévention n'est pas la privation. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et tout ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien personnellement et il n'y a pas de mal à se faire du bien socialement, ensemble.
En fait, la bonne recette, c'est le bonheur.
La bonne recette, c'est d'appliquer le bonheur collectivement, c'est-à-dire le partager. Partager le bonheur, c'est ça la bonne recette, c'est pas le bonheur égoïste.
Alors, il semble aujourd'hui, malgré toutes ces bonnes nouvelles que vous nous annoncez, que nous stagnons. C'est en tout cas ce que constate Jean-François Toussaint. Il est cardiologue et professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes. Il dirige l'IRMES, qui est un institut au sein duquel il explore les exploits sportifs.
On voit quasiment en athlétisme, en natation, chacune des disciplines, une d'entre elles qui s'arrête chaque année, depuis 1983, c'est pas récent ce modèle. Et même à l'intérieur des disciplines qui progressent, pour le meilleur d'entre eux, je pense à Renaud Lavillenie qui a battu le record de Sergi Bouka. En fait, on se rend compte que les 9 autres parmi le top 10, parmi les 10 premiers, en fait, régressent de 10 cm eux en 20 ans, alors que Renaud a gagné 1 cm face au record de Bouka. Donc cette discipline-là est en train de régresser comme les lancers du poids, les lancers du disque, comme un grand nombre de disciplines dans lesquelles on voit que la physiologie humaine arrive à ses plafonds. Et ce domaine-là est très contextualisé quand on comprend ce que sont les impacts de la nutrition sur le développement humain pour arriver à avoir de grands costaud, et donc des athlètes qui vont courir plus vite, sauter plus haut. Donc on voit ces augmentations-là, mais on les voit en même temps commencer à ralentir dans leur progression. J'en veux pour preuve la taille, par exemple, des basketteurs américains, qui sont les plus grands du monde, qui sont la concentration des plus grands athlètes du monde, chez les hommes comme chez les femmes. Eh bien, on voit que cette taille-là a cessé de progresser depuis 25 ans. Donc les maxima sont en train d'être atteints actuellement.
Nous aurions donc atteint nos limites,
non,
Joël Derenet.
Pas vraiment, parce qu'il y a deux choses dans le sport. Il y a la personne physiologique, et peut-être là on va vers des limites, et puis il y a les instruments qu'on utilise, les outils. Et les outils évoluent. La perche de la Villeni, elle a complètement changé par rapport à la perche d'il y a 20 ans ou 30 ans. Le matériau devient beaucoup plus élastique, beaucoup plus propulsif. Donc je suis d'accord, il y a des limites physiologiques, mais en même temps, les progrès techniques dans les matériaux et dans les instruments qu'on utilise font progresser encore les sports.
Donc en fait, il faut s'appuyer, selon vous, sur la technologie si l'humain atteint ses limites,
parce que c'est vrai que oui, il y a les deux.
Il va falloir trouver des solutions pour à terme survivre quand même sur cette planète, même quand nous serons 9 milliards en 2050, ça va être compliqué.
Bah, c'est déjà compliqué pour l'alimentation, pour la faim dans le monde, c'est déjà compliqué. On sait qu'avec les technologies maintenant de la fermentation, les technologies les biotechnologies, on peut nourrir les hommes, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de nourrir en quantité, il faut nourrir en qualité. Et aujourd'hui, il y a trop de viande consommée dans le monde. C'est très mauvais pour l'environnement, évidemment, parce que faire des élevages intensifs de bœuf, ça utilise énormément d'énergie, ça recrache du CO2. Or, la complémentation végétale alimentaire, le riz et les lentilles, par exemple, le couscous avec les pois chiches et la semoule, sont des compléments alimentaires, lysine, méthionine, qui permet d'avoir l'équivalent des protéines de la viande. On ne le dit pas assez. Et là, c'est sans les graisses et c'est sans la pollution environnementale. Donc, complémentons les végétaux, végétalisons notre nutrition, notre alimentation, apprenons à être plus végétaliens et végétariens et ajouter des vitamines nécessaires éventuellement si on est trop végétalien. Mais c'est absolument nécessaire pour l'avenir du monde.
Après, il y a des marqueurs sociaux, c'est-à-dire que dans certaines cultures, c'était le cas de la nôtre, même si c'est en train un petit peu de changer, manger de la viande, ça fait riche, quoi.
Mais ça fait riche maintenant, mais on n'a pas mangé de la viande pendant longtemps parce qu'on se servait du bœuf pour labourer, on se servait du revenu des animaux, le lait de la vache, les œufs des poules, plutôt que de tuer les animaux eux-mêmes. Tuer le cochon, c'est une sorte de cérémonie parce que c'est un capital dans la ferme, et même dans les insectes. Dans les insectes, il y a des protéines extrêmement utiles pour le corps.
On a fait une émission justement hier sur ce sujet.
Voilà. Et vous vous rendez compte à quel point l'élevage des insectes est beaucoup moins coûteux en énergie et en pollution que l'élevage de gros animaux. Or, les protéines sont là. Alors évidemment, ça fait bizarre de manger des insectes, mais on peut faire des gâteaux de protéines à partir d'insectes. Donc moi, je crois beaucoup à la possibilité d'utiliser les végétaux en complémentation. D'ailleurs, traditionnellement, tous les pays le montrent. En Inde, c'est le riz et les lentilles.
Oui.
En Chine, c'est le soja et le riz. Au Mexique, c'est les garbanzos et c'est les pois chiches, les haricots rouges et les maïs. En Afrique du Nord, c'est la semoule et les pois chiches. Donc partout, on retrouve cette complémentation traditionnelle. Tous les pays savaient le faire. Pourquoi on ne continue pas?
Ouais, parce que c'est l'agro-industrie qui a bouleversé un peu tout ça.
Évidemment, l'agro-industrie nous impose des produits qui ne sont pas bons pour notre santé. Ils sont trop salés, trop sucrés et trop gras.
Et quelles sont les autres recommandations pour stimuler nos gènes de manière efficace?
Alors le management du stress est très important. Le stress nous tue progressivement. Il y a deux choses qui nous tuent, c'est l'inflammation et l'oxydation. L'inflammation, le corps s'enflamme et il se mobilise contre lui. Et l'oxydation, le corps rouille avec des radicaux libres, avec des substances qui viennent de la pollution, de l'environnement, de la mauvaise alimentation ou de la fumée de cigarette. Donc on peut lutter contre l'inflammation et on peut lutter contre l'oxydation. Une alimentation équilibrée, notamment, passe par une alimentation colorée. Ça paraît étrange.
Il faut que ce soit beau.
Il faut que ce soit aussi beau. Beau et bon. Donc plus on mange coloré, plus on mange des épinards vertes, des choux rouges, plus on mange des oranges, des mandarines, des cerises, des myrtilles, plus ces produits contiennent des flavonoïdes. Le mot est compliqué, mais ce sont des produits naturels, antioxydants, anti-inflammatoires. Donc dans notre alimentation, on a les meilleurs médicaments pour rester en bonne santé.
Donc ça c'est une clé, c'est un critère. Plus votre assiette est colorée, plus elle est saine.
Absolument, plus elle est bonne pour votre oxydation, contre l'oxydation, même le chocolat noir à 70% de cacao qu'on a critiqué pendant très longtemps en disant attention, c'est dangereux pour la santé. En fait c'est assez bon pour la santé, à raison de 2 carrés par jour.
Et vous dites même, d'ailleurs ce sont un peu les mêmes propos que le président de la République Emmanuel Macron qui a été critiqué pour cela, mais vous dites un peu pareil, hein, 2 verres de vin par jour, c'est pas si
absolument
mauvais pour la santé.
2 verres de vin par jour, c'est pas mauvais du tout pour la santé. Le vin contient du resveratrol, qui est une substance antioxydante, anti-vieillissement. Il faut le faire, donc boire un petit peu de vin, c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, Jeanne Calment le faisait, elle a vécu 120 ans.
Voilà, quand c'est dit par un scientifique, ça fait du bien finalement. Alors, nous avons de nombreuses solutions, hein, on l'a dit, pour nous adapter à notre propre corps et le faire vieillir le plus longtemps possible et le mieux possible, mais aussi pour transformer la société société face aux immenses défis qu'il y a au XXIe siècle, et vous le démontrez dans votre livre. Restez avec nous, nous en parlerons juste après le flash d'info. À tout de suite.